France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Le journal est présenté par Margot Delpierre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La campagne de vaccination contre le Covid-19 a officiellement commencé hier en France. Un début symbolique, pour l'instant timide, dans deux structures pour personnes âgées en Seine-Saint-Denis et à Dijon. Elle va progressivement s'étendre. Le CHU de Lille va s'y mettre aujourd'hui et vacciner une douzaine de résidents d'un EHPAD en leur injectant le produit de Pfizer et BioNTech. Cette vaccination n'est pas obligatoire. Le début de la vaccination ne marque pas la fin de la pandémie. Certains craignent un troisième confinement en France. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, devrait tenir un nouveau conseil de défense sanitaire demain en visioconférence. Les pays annoncent des mesures de restriction supplémentaires les uns après les autres. L'Irlande du Nord, l'Écosse, l'Autriche, on peut également citer Israël, où les commerces doivent fermer. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 6h30. Les Centrafricains étaient appelés à voter hier, élections présidentielles et législatives dans un contexte sécuritaire tendu. Des groupes armés voulaient marcher sur Bangui, la capitale, mais l'explosion de violence redoutée n'a pas eu lieu. Des casques bleus, des paramilitaires russes et des soldats rwandais sont mobilisés. Cependant, plus loin, quelques incidents ont été rapportés. Des électeurs empêchés de voter ou privés de leur carte, jamais arrivés à cause de cette insécurité. Après plusieurs jours de résistance, Donald Trump a finalement ratifié hier le plan de relance de l'économie américaine. Le président sortant des États-Unis a donné son accord. Ce plan de 900 milliards de dollars prévoit des aides pour les ménages et les petites entreprises. Reportage à suivre dans le journal de 7h30 sur France Culture.
Je vous donne rendez-vous lundi à 19h en compagnie d'Ophée Schechter.
Sur France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Le danseur et chorégraphe israélien est de retour à Paris pour offrir une nouvelle version de sa pièce culte Political Mother. Ce sera l'occasion de revenir avec Ophée Schechter sur un parcours acclamé dans le monde entier et sur la nécessité de la danse de dire le monde.
Affaires culturelles, ce lundi à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Une plante est-elle un être comme les autres? La démocratie se cultive-t-elle comme un jardin? Les fleurs sont-elles monstrueuses?
Promenons-nous sur les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Du rhizome de Gilles Deleuze au roman À rebours de Huysmans, découvrez le végétal sous toutes ses formes.
Question de nature, dans le cours de l'histoire et les chemins de la philosophie, du mardi au vendredi à 9h05 et 10h sur France Culture et sur l'appli Radio France.
Tout de suite, le monde vivant, Bruno David, ce matin, les bizarreries de Burgès.
Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre, bizarre. Comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre?
Fragment de dialogue culte entre Louis Jouvet et Michel Simon, tiré du film Drôle de drame. Dialogue qui s'applique mot pour mot à des formes vivantes vieilles de 500 millions d'années. Nous sommes fin août 1909. Charles Walcott chemine à cheval sur les sentiers escarpés des Rocheuses canadiennes. Il pose ses pas sur des roches très anciennes du tout début de l'ère primaire et il s'apprête à découvrir le site fossilifère de Burgess, le plus exceptionnel au monde. Sa découverte sera célébrée par le National Geographic Magazine dès 1911. Les roches sont des schistes issus de la compression de boues marines très fines qui s'étaient déposées dans une mer équatoriale, une mer où s'épanouissait une faune riche et diversifiée. La finesse de ces boues marines a permis la préservation dans leurs moindres détails des animaux qui s'y trouvaient enfouis, soie ou poils très fins, tubes digestifs avec les restes du dernier repas, etc. Walcott allait mettre à jour dans ce gisement d'exception des formes vivantes vraiment étonnantes. Je vous invite à rêver un peu. Essayez de vous représenter Hallucigenia. Un corps allongé, sorte de tube muni sur une face de 6 paires d'appendices souples se terminant par 2 griffes. Sur l'autre face se trouvent 7 paires d'appendices effilés et plus rigides. Une telle bizarrerie qu'Hallucigenia a d'abord été interprétée comme se déplaçant sur 14 béquilles avec des branchies sur le dos, avant d'être retournée pour marcher sur des pseudopodes protégés par ses piquants dorsaux. Passons à Opabinia, mon préféré. Un petit animal qui nage en faisant onduler 15 paires de lobes latéraux souples, un peu comme un oiseau à 30 ailes. Il observe l'environnement grâce à ses 5 yeux et possède à l'avant une trompe flexible qui se termine par une paire de pinces munies d'épines. Le minuscule Pikaia, un vermisseau assez insignifiant, qui devait être discret dans la mer de Burgess. Seulement voilà, Pikaia est sans doute proche de l'ancêtre des ancêtres des vertébrés, et donc un peu le nôtre. Pour un bon scénario, il manque le grand méchant. À Burgess, le rôle était tenu par Anomalocaris. La bête mesure jusqu'à 1 mètre de long. Son corps est souple, articulé en segments. Il se termine par une tête surmontée de 2 yeux pédonculés et dotée de 2 appendices, sorte de pinces courbes redoutables encadrant une bouche bordée de plaques hérissées d'épines. Ces formes sont tellement étranges que Stephen Jay Gould, dans son ouvrage « La vie est belle », n'a pas hésité à les classer en dehors des groupes connus. Depuis, les scientifiques les ont plutôt regardées comme des formes très anciennes de groupes connus. Finalement, la science-fiction, avec les bipèdes bleus d'Avatar ou les créatures de Star Wars, a bien peu d'imagination. Alors, je vous assure, mon cher cousin, que vous avez dit Burgess, Burgess.
Mettez vos sens en éveil. 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Cette semaine, on va faire le bilan culturel de cette année très très particulière avec ce matin. Une rencontre entre deux écrivaines qui ont marqué la rentrée littéraire. Fatima Das pour son premier roman La Petite Dernière et Faïza Ghen pour La Discrétion. Chacune à sa manière, les deux auteurs rendent hommage à leur mère et inscrivent dans la littérature française contemporaine le personnage ô combien romanesque de la mama arabe des banlieues françaises. Et en deuxième partie, on retrouvera Oriane Jeancourt du magazine Transfuge qui viendra nous parler des 3 romans sortis en 2020 qui l'ont le plus marqué.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Dans un instant donc, la rencontre entre Fatima Das et Faïza Ghen. Faïza Ghen qui publie donc son 8e roman, La Discrétion. C'est édité par Plon. Et ce roman dresse le portrait de Yamina Taleb, née en 1949 dans un petit village de l'Ouest algérien, et qui connaîtra la guerre, puis l'exil en France. Yamina a 70 ans quand on ouvre La Discrétion. Elle sort rarement d'Aubervilliers. C'est une femme silencieuse qui fait semblant d'ignorer les remarques déplacées, les marques de mépris, la condescendance. Elle ne veut pas se laisser envahir par le ressentiment. Mais ses enfants français, 3 filles et 1 garçon, n'aiment pas voir leur mère malmenée ainsi. Eux, ils savent qui elle est et ce qu'elle a traversé, et ils exigent que le monde entier le sache aussi. Extrait de La Discrétion, lu par l'auteur.
Yamina ne comprend pas pourquoi Brahim s'entête à vouloir endurcir Omar. À ses yeux, faire profiter ses enfants d'une vie agréable et facile les récompense de la pénibilité de leur propre vie. Sinon, à quoi bon avoir traversé tout ça ? Est-ce qu'il faut qu'Omar descende à la mine et se retrouve la figure pleine de charbon pour prouver à son père qu'il est un homme ? Les chauffeurs Uber d'aujourd'hui ne sont-ils pas les mineurs d'hier ? Ne sont-ils pas comme leur père ? Des travailleurs qu'on paye peu et qui font fructifier un système inégal et gourmand, ne sont-ils pas leurs dignes héritiers après tout ? Malgré leurs études et les possibilités dont ils sont supposés bénéficier, ils conduisent des voitures à longueur de nuit, pour des salaires minables, dépendant de la sonnerie de l'application, qui ne cesse d'affoler leur cœur gâché, dépendant des notes et des commentaires de leur clientèle capricieuse.
La discrétion éditée par Plon de Feyzaghen. Et maintenant, on passe à la petite dernière, premier roman très remarqué de Fatima Daas, paru dans la collection Notabilia des éditions Noir sur Blanc, et qui se présente comme une suite de monologues ou les petites histoires d'une Française d'origine algérienne nommée Fatima Daas, banlieusarde qui observe les comportements parisiens, lesbienne et musulmane pratiquante qui crie ce qu'elle est incapable de dire à haute voix à sa mère qu'elle aime par-dessus tout. Extrait de la petite dernière par l'auteur.
Je m'appelle Fatima. J'ai du mal à me défaire de l'idée « je suis starbée ». C'est pour ça que Madame Guérin me reçoit dans son salon. À chaque début de séance, Madame Guérin me demande si je veux boire quelque chose, si je n'ai pas froid, si je suis bien installée. Je fais attention de ne pas croiser les bras, de ne plus triturer d'objets, parce que je connais très bien le bordel, le langage corporel et tout le reste. Je l'affronte. J'ai un sourire stupide, genre, je vais pas te dire ce que tu veux entendre. Je lui relance les questions qu'elle me pose. Elle rétorque qu'on n'est pas là pour parler d'elle. Mais elle répond quand même à tout. Je bricole avec des émotions contradictoires. Ce que je raconte, c'est décousu, flou et troué de silence. Madame Guérin, elle prend son pied quand elle voit que je suis torturée, quand je me retiens de balancer sa table contre le mur, quand elle insiste pour me faire parler de ma mère.
C'était un extrait de la petite dernière, premier roman de Fatima Daas, lu par elle-même. Fatima Daas, vous êtes née en 1995 et Feyzaghen, vous êtes née en 1985, 10 ans vous séparent. Vous avez lu ce premier roman de Fatima Daas, quand je vous ai appelé cet été au téléphone, vous m'avez dit, je l'ai déjà lu.
Oui, absolument, je l'avais lu et j'ai adoré. Donc là, j'ai l'occasion de lui dire que j'ai beaucoup aimé ce livre et je le recommande vraiment à tout le monde, j'ai trouvé magnifique. Vraiment, vraiment, j'ai vraiment adoré.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre ?
D'abord l'écriture en fait, c'est-à-dire le style, la manière de tellement puissante je trouve, et en même temps hyper poétique, de dire des choses parfois brutales, ça m'a beaucoup plu, voilà. En premier lieu, j'ai envie de parler de l'écriture, quoi. Après, tous les sujets dont il est question dans le roman m'ont beaucoup touchée aussi, mais voilà, c'est vraiment pour moi, quand j'ai commencé à lire, j'ai parcouru les premières lignes, je me suis dit, c'est vraiment, j'ai assisté à la... C'est vraiment, c'est un écrivain, c'est un auteur vraiment qui est déjà là à la première ligne du roman.
Et Fatima Daas, est-ce que vous aviez déjà lu les romans de Feyzaghen ?
J'avais pas lu du coup, c'était mon premier aussi.
La discrétion, et alors ? Vous avez retrouvé peut-être ce thème qui est commun à vos deux romans, c'est-à-dire le portrait de la mère ?
Tout à fait, moi, j'ai trouvé beaucoup de similarités et de... Moi, il y a des passages qui m'ont beaucoup touchée et qui m'ont raconté une histoire, et une histoire qui m'est aussi proche. Et notamment avec la figure de la mère, qui est à la fois, dans le roman de Faiza, une mère forte, tendre, mais aussi très exigeante. Parfois un peu, je l'ai ressentie un peu comme quelqu'un qui doit cacher ses émotions, qui doit faire taire des choses. Et je crois que elle ressemble aussi à la mère de Fatima dans le roman.
J'ai l'impression, en passant d'un roman à l'autre, que là où il y avait beaucoup d'empathie, d'humour dans le style de Feyzaghen, pour parler de la famille, pour parler de la double culture, pour parler aussi des banlieues, vous, Fatima Daas, vous êtes plutôt direct, comme si l'époque d'aujourd'hui est un peu plus dure que l'époque qui vous a lancé dans la littérature Feyzaghen. Vous avez cette impression ?
Alors que l'époque est devenue plus dure, certainement, mais...
Et que ça se ressent en passant de votre monde, Feyzaghen, au monde de Fatima Daas.
Après, peut-être que la différence, c'est aussi qu'on n'a plus besoin d'avoir des paravents pour raconter des choses, parce qu'on ose plus les dire de manière frontale. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on aborde avec plus de liberté, parce que c'est vrai qu'à l'époque où j'ai commencé à écrire... on était peu déjà à raconter nos histoires, nos récits étaient quasiment inexistants, on était vraiment invisibles. Donc il y avait une sorte de politesse pour se raconter, peut-être étant mieux que cette politesse, elle est plus indispensable.
Politesse, Fatima Daas.
Je rejoins complètement Faiza, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, quand il y a cette urgence d'écrire d'écrire, de prendre la parole et de donner, de faire exister plusieurs identités qu'on voit mais qui sont mal représentées ou pas par les principales concernées en fait. Et du coup, il y a quelque chose de l'urgence et je pense que c'est très important aujourd'hui qu'on écrive, qu'on mette en mots par des images, par de la musique, nos récits, nos propres récits.
Ça veut dire quoi, Fatima Dias? Nos propres récits spécifiques?
Ben, ça veut dire parler de ce qui nous concerne, à l'endroit, au bon endroit. Parce que souvent, on a grandi avec des représentations qui n'étaient pas les bonnes. Alors, on arrive à un moment où on se demande plus, en fait, si on est légitime d'écrire, si on a notre place. Moi, je me suis jamais posé la question de l'écriture. Je me suis jamais dit, est-ce que je suis légitime d'écrire? Je me suis posé la question de la légitimité à plein d'autres endroits, mais pas dans l'écriture, et j'ai pas envie de me la poser.
Et vous, Faïza Ghan?
Bah, les 10 ans qui me séparent de Fatima, c'est les 10 ans qui ont été utiles pour moi pour régler cette question de légitimité. Je pense que c'est la question de ma génération, et tant mieux si la génération suivante ne se la pose plus. C'est parce qu'on se l'est posé tellement, en fait. Et en plus, pas de manière... c'est-à-dire que c'est même pas notre question. C'est une question qui nous est imposée. C'est-à-dire cette question, c'est une contrainte. Parce qu'en vrai, si vous me posez la question par rapport à l'écriture, c'est mon endroit, mais depuis toujours. C'est-à-dire qu'en vrai, spontanément, j'ai toujours écrit. C'était ma manière la plus naturelle de m'exprimer depuis ma plus tendre enfance. Et c'est quand j'ai commencé à publier que je me suis interrogée sur cet aspect de la légitimité.
Mais pour parler quand même d'une certaine France.
En fait, faut le dire, pour parler des Arabes, pour parler des Berbères, pour parler des Métèques, pour parler des pauvres. Et faut le dire. Et en fait, justement, cette politesse, moi, je n'ai plus envie qu'elle soit justement un frein pour moi. C'est-à-dire que, et je suis trop contente que nos récits existent et de dire nos récits. C'est-à-dire que de dégager complètement la question et la méfiance autour d'un pseudo-communautarisme qui serait comme un gros mot et qu'on n'aurait pas le droit de parler de nous parce que ça ferait qu'on se mettrait comme en ennemi et qu'on ne voudrait pas parler aux autres. Or que bon, c'est important quoi que nos récits existent et on n'a même pas besoin de le dire. C'est même pas un sujet, c'est-à-dire qu'on fait pas des livres sur les Arabes, sur les pauvres et tout, c'est que ça existe, ça fait partie de nos mondes et de nos imaginaires et qu'on les emploie pour raconter ces histoires.
Fatima Dias?
J'arrête pas de hocher la tête parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Faïza. Et ouais, je pense que c'est très important que ça sorte de nous et qu'on ne se pose plus ces questions-là et qu'on aille au bout de ce qu'on a envie de dire, de ce qu'on a envie de faire. Et ne plus avoir à dire pardon, en fait, s'excuser d'exister, s'excuser de porter ces paroles-là.
Il y a beaucoup de mots en arabe qu'on retrouve dans votre premier roman, Fatima Dias, la petite dernière, et de plus en plus dans vos romans, Faïza Ghan.
De plus en plus, là, parce qu'il est question justement de l'histoire d'une femme qui a 70 ans aujourd'hui, qui est une mère de famille.
La discrétion.
Et je balaye en fait son histoire de sa naissance en Algérie à aujourd'hui et sa vie à Aubervilliers de mère. Donc il y a aussi toute cette histoire de l'Algérie. Et puis c'est elle, donc c'est sa voix, même si j'écris à la troisième personne, c'est sa voix, donc c'est ses mots. Ce sont ses mots. Donc oui, il y a des mots en arabe en effet.
Quand vous dites ce sont ces mots, c'est-à-dire que vous avez travaillé à partir d'une musicalité d'une langue, en reprenant les mots que vous entendez autour de vous, chez ces personnes-là, c'est-à-dire pour la plupart des mères d'enfants français, mais qui sont venus en tant qu'immigrés en France?
Pour être honnête, en fait, j'ai travaillé sur ce personnage de la même manière que j'ai travaillé sur tous mes autres personnages dans tous mes romans, c'est-à-dire que j'entends la voix du personnage, et là, c'est sa voix à elle, et donc il y a ces mots-là. Après, évidemment... Moi, l'arabe, c'est ma langue maternelle, donc c'était pas compliqué pour moi. Et puis, je me suis inspirée de ma maman et d'autres mères, d'autres femmes pour décrire ce personnage. Donc, c'était pas difficile pour moi de l'entendre, cette voix. Elle était très proche.
Alors aujourd'hui, c'est quoi votre place, Faïza Ghan? Quand vous avez commencé, je sais que quand vous avez commencé, c'était avec Kif Kif Demain. On vous a plutôt bien accueilli, hein. Il y a eu un véritable succès critique et en librairie. Et pour vous présenter, on a parlé, on vous a comparé à d'autres auteurs. La Françoise Sagan des banlieues, c'est resté.
Oui, c'est resté, à mon grand désespoir, parce que ça fait quand même 16 ans. Après, c'était une bonne formule, c'était une bonne formule de journaliste. En fait, je pense que le seul point commun, c'est que Sagan a publié son premier roman à 19 ans, comme moi. Ouais. Et c'était ça, mais bon, on m'a accueilli aussi d'une certaine façon, c'est-à-dire on m'a pas... J'étais dans les pages sociétés. C'est ça que je rappelle souvent. Donc, c'était
pas dans les pages littéraires.
Non, ni dans les pages culture des voilà, mais Donc c'était plus un phénomène. C'est-à-dire que moi, mon kiff-kiff demain, c'était un peu la Macarena de la littérature de l'époque. C'était le tube de l'été, personne pensait me revoir un jour. Donc je suis très contente d'être là 16 ans après pour dire que c'est pas simplement un phénomène de société ce que j'ai écrit. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui me parlent de kiff-kiff demain comme de quelque chose qui leur a donné le sentiment que justement, ils avaient le droit de faire des choses, d'écrire, de faire des grandes études, etc. Et j'ai 16 ans de recul pour vous dire ça maintenant, quoi.
Et vous, Fatima Das?
Ben, je crains surtout qu'on ne me parle pas de ce que j'ai écrit, enfin de mon écriture, de la forme, des phrases, de ce qu'on en retient, et qu'on me parle de thème, et qu'on en fasse, qu'on utilise ça à des endroits qui ne m'intéressent pas. Donc moi j'ai juste envie qu'on parle d'écriture en fait, et de littérature.
Pour terminer, puisqu'il y a la littérature, il y a l'écriture, mais est-ce qu'il y a une envie chez vous, Faïza Guen et Fatima Das, d'être témoin de votre époque et témoin donc de l'évolution de la société française et du monde, Faïza Guen?
Au sens où, en tout cas moi dans ma démarche, je me sens comme ça, c'est-à-dire j'ai l'impression d'être un témoin, d'être dans une position un peu décalée, et d'avoir un outil extraordinaire qui me permet justement de raconter ce que j'observe, etc. Donc oui, je me sens témoin surtout d'une époque qui disparaît. C'est-à-dire que, par exemple, là, le personnage de la mère, il y avait déjà dans ma littérature beaucoup de tendresse pour cette génération, pour les Chibani, etc. Et pour moi, c'est des gens qui sont en train de s'en aller et qui s'en vont sans avoir laissé forcément de traces. Donc il y a quelque chose qui m'anime, qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire que ces récits-là, en fait, sinon on les raconte pas, ils disparaissent. Donc il y a quelque chose, pour moi, qui est très important à ce niveau-là.
Et pour vous, Fatima Das?
Je pense que je dis quelque chose de mon époque et je raconte quelque chose qui n'a pas eu tellement sa place en littérature.
Rachita sur France Culture dans le Réveil Culturel. Et tout de suite après, on retrouvera Oriane Jeancourt qui nous parlera de ses coups de cœur littéraires pour l'année 2020. Les trois romans qu'elle nous recommande vivement. Et on retrouve Oriane Jeancourt, notre amie et notre partenaire du magazine Transfuge. Bonjour Oriane Jeancourt.
Bonjour Toussic, bonjour à tous.
Et merci d'avoir répondu à notre question. Quels sont les trois romans marquants de l'année 2020 selon vous, Oriane Jeancourt?
Écoutez, c'était pas une question à laquelle il était facile de répondre, parce que si 2020, on peut le dire, a été assez catastrophique sur tous les plans, il ne l'a pas été sur le plan littéraire. Il y a eu de très bons livres et voilà, c'était une des rares sources de réjouissance à Transfuge. Alors mon premier coup de cœur est d'ailleurs paru en janvier 2020. Et c'était le nouveau livre de Constance Debré, donc cette écrivain française qui avait déjà fait parler d'elle avec deux livres précédents, toujours dans l'autofiction. Elle racontait comment est-ce que d'une vie assez banale, familiale, d'avocate parisienne, elle avait tout abandonné pour devenir une lesbienne, libre, écrivain, artiste. Eh bien, ce dernier livre, Love Me Tender, achevait ça et ouvrait une autre porte dans son travail, puisqu'elle nous racontait les relations qu'elle avait avec son fils aujourd'hui, des relations assez dramatiques d'ailleurs avec son fils de 9-10 ans, aujourd'hui, alors qu'elle est devenue cette nouvelle femme libre, mais aussi cette nouvelle femme en proie au questionnement de son ancienne maternité. Donc j'ai trouvé que c'était un livre à la fois d'une force de style et d'une finesse psychologique très forte.
Un coup de cœur que nous avons partagé d'ailleurs ensemble dans le Réveil culturel Love Me Tender de Constance Debré, c'est bien sûr édité chez Flammarion. Et votre deuxième coup de cœur, Oriane Jeancourt?
Alors mon deuxième coup de cœur, c'était à la rentrée. Pour moi, c'était vraiment le grand livre de la rentrée de septembre. Et c'était Apérogone de Colm McCann. Alors, l'écrivain irlandais, bon, on le suit depuis longtemps, hein. C'est un grand nom de la littérature anglo-saxonne. Il avait déjà fait ce livre extraordinaire qui s'appelait The Dancer, sur Nureyev, enfin toujours. Il va chercher des sujets étonnants et il les tient avec une virtuosité romanesque assez sans pareil. Mais là, à Perrogon, d'abord d'un point de vue formel, il raconte 100 histoires en même temps, donc il faut le faire. Et puis, il nous fait vivre deux héros, un Palestinien, un Israélien, deux hommes qui existent, qui ont tous les deux perdu leur fille pendant le conflit, et qui tous les deux se battent pour la paix. Donc, on est vraiment face à deux très grands héros d'aujourd'hui, et Colm McCann, voilà, réussit à les faire vivre dans un roman de manière époustouflante.
Donc, je vais le prendre, le À Perrogon, que j'avais pas eu le temps de lire, de Colm McCann. C'est édité chez Belfond. Et puis enfin, le troisième roman de votre top 3 2020 en littérature, Auriane Jeancourt.
On aime bien la littérature étrangère et donc voyager un peu. Et là, nous sommes un peu de retour en Europe. C'est Clément de Fetz, un Autrichien, qui publie un livre qui est déjà, à mon avis, le meilleur titre de l'année, en tout cas le plus original. Ça s'appelle La consolation des choses rondes.
Effectivement.
Et ce sont des nouvelles qui nous racontent toujours, ce jeune écrivain de autrichien nous raconte toujours la solitude dans les grandes villes, la manière qu'ont les gens de trouver une consolation justement. Alors parfois ce sont des gens qui sortent de véritables tragédies, mais quelquefois ce sont des gens qui tout simplement peinent à trouver leur place dans la société, peinent à trouver leur place dans la ville et donc vont chercher partout, même dans le goût des choses rondes. Il y a différents personnages. Il y a une histoire, par exemple, très forte d'une infirmière qui va enlever un enfant d'une école où elle travaille et puis elle va finalement le ramener. Mais on voit bien, on est avec cette femme dans cette éprouvante solitude et cette recherche insatiable de consolation. Et je trouve que, voilà, Clément de Fetz est vraiment un des très grands écrivains de cette solitude d'aujourd'hui.
Voilà, c'est de saison. La consolation des choses rondes de Clément de Fetz, c'est chez Jacqueline Chambon, je crois.
Absolument.
Le Colm McCann À Perrogon, c'est chez Belfond. Et le Love Me Tender de Constance Debray chez Flammarion. Il n'y a pas eu un seul des primés dans votre top 3, Auriane Jeancourt, vous avez...
Oui, alors je ne veux pas, j'aime bien ronchonner d'habitude sur les prix comme tout le monde, c'est un sport national, mais là je veux dire que nous avons un très beau concours. Et voilà,
alors, elle est liée.
Je suis ravie de cette anomalie. C'est vraiment un grand écrivain de fiction. Et ça fait du bien en France de se dire qu'on est capable de d'œuvres purement imaginaires comme ça. C'est même, on frôle le fantastique et la science-fiction. Voilà, normalement, ce sont des sports pas très français. Et voilà que tout d'un coup, Hervé Le Tellier vient nous dire que tout ça est possible en France et qu'il y a une réserve d'imaginaire très forte. Très contente de
nous. Ouais. Ben, nous aussi, à France Culture, on est plutôt contente de ce concours 2020. Et pourtant, en couverture du dernier Transfuge, qu'on peut déjà trouver en kiosque, le numéro de janvier 2021, c'est plutôt la littérature du réel, puisque c'est Yasmina Reza qui est en couverture.
Oui, la littérature du réel et surtout l'humour, parce que Yasmina Reza, voilà, c'est une de nos grands tragicomiques, grandes tragicomiques. Et là, elle quitte un temps le théâtre pour le roman et elle nous fait un roman familial, visiblement très personnel, sur deux frères et une sœur qui décident de faire un grand voyage sur les traces de leurs origines familiales. Et elle fait ça toujours avec, voilà, ce talent de nous faire rire et en même temps de nous faire penser le monde d'aujourd'hui.
Merci Auriane Jeancourt et bonne année à vous.
Mais bonne année à vous aussi, Toufik.
Et à bientôt.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Et merci de passer vos vacances d'hiver avec France Culture. On se retrouve, nous, demain, à la même heure, et on parlera des super-héros de la bande dessinée japonaise, les mangas. Vous connaissez les mangas, bien sûr, et même si vous en lisez pas autour de vous, tout le monde en lit. On en parle donc demain avec deux spécialistes. Passez une excellente matinée avec France Culture.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Alors que Joe Biden prend la tête d'un pays fracturé où la pandémie s'accélère, quels sont les grands chantiers économiques qui attendent le nouveau président ?
Sur France Culture, Tiphaine de Rocchini.
Premier défi, répondre à la crise sociale qui secoue les États-Unis. Le chef de l'État devra ensuite trouver les moyens de financer son ambitieuse relance verte et engager un bras de fer avec les géants du numérique dont le pouvoir ne cesse de grandir. Pour en parler, nous recevons trois grands économistes installés aux États-Unis : Gabriel Zucman, Thomas Philippon et Pierre-André Chiapori.
Entendez-vous les du lundi au vendredi à 14h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Nous qui sommes sans passé, les femmes.
Elles sont artistes, écrivaines, politiques, avocates, juges. Je ne serais pas arrivée là si. Nouveau podcast original de France Culture. Angélique Kidjo, Amélie Nothomb, Virginie Despentes, Christiane Taubira, Gisèle Halimi ou Shirin Ebadi, des femmes qui ont imposé leur voix dans un monde forgé par les hommes. À partir d'une série d'entretiens d'Annick Cogent, écoutons-les dans les voix de Julie Gaillet et Judith Henry qui signent la mise en scène. Je ne serai pas arrivée là si sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, les informations de 6h30. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La campagne de vaccination a commencé en France et dans de nombreux pays européens. Entre espoir et inquiétude, des incertitudes persistent. On ne sait pas combien de temps les vaccins sont efficaces et s'ils empêchent d'être contagieux. Nous irons en Allemagne. Bilan sur une première journée de vaccination. Hier, la campagne est pour l'instant limitée et jugée plutôt lente, nous expliquera notre correspondant à Berlin. Faut-il s'attendre à un troisième confinement en France ? Dans d'autres pays d'Europe, les mesures de restriction se multiplient. Nous ferons le point en Irlande du Nord, en Écosse et en Autriche. Et puis notre correspondante en Centrafrique reviendra sur les élections qui avaient lieu hier dans un contexte sécuritaire tendu. Une certaine Morissette a été vaccinée la première en France hier contre le Covid-19 et des millions de personnes devraient suivre. La campagne de vaccination a commencé pour quelques résidents d'EHPAD dans l'Hexagone et montera en puissance avec pour objectif la vaccination de 15 millions de personnes d'ici l'été prochain. Le produit de Pfizer et BioNTech est le premier autorisé. Moderna attend le feu vert pour début janvier. Pour ces vaccins, comme pour celui d'AstraZeneca par exemple, des incertitudes persiste malgré l'espoir, Véronique Julia.
Les premières vaccinations, moins d'un an après l'apparition officielle du virus en Europe, tout le week-end, sur Twitter notamment, beaucoup d'experts ont salué l'exploit. Félicitons-nous que ce virus ne soit pas arrivé 30 ans plus tôt, écrit l'un d'entre eux. On n'aurait pas pu à l'époque sortir des vaccins efficaces en 9 mois. Efficaces, ils le sont a priori, à plus de 90% pour Pfizer et Moderna, ils empêchent les formes graves. Les essais cliniques n'incluaient pas de patients très âgés, mais la Haute Autorité de Santé est assez confiante pour les octo- et nonagénaires. Combien de temps ces vaccins sont-ils efficaces? Et surtout, empêchent-ils d'être contagieux ? On ne le sait pas encore. Ont-ils des effets indésirables ? Pour l'instant, rien de grave n'a été signalé, hormis des réactions très rares chez des personnes très allergiques, pour lesquelles du coup le vaccin Pfizer n'est pas recommandé en France. Le vaccin reste-t-il efficace contre le variant britannique du virus ? À ce stade, pas d'inquiétude. Mais les fabricants de vaccins ARN se disent prêts à réagir en 6 semaines s'il fallait s'y adapter. Enfin, autre inconnu, les Français face au vaccin. De leur adhésion dépend aussi la réussite de l'opération. Pour l'instant, il reste méfiant. Moins de la moitié se disent prêts à se faire vacciner.
Et nous reparlerons de la politique vaccinale française, de l'importance de la concertation dans les matins de France Culture avec les invités d'Hervé Gardette à partir de 7h40. La campagne de vaccination a donc commencé ce week-end en France comme dans d'autres États européens. En Allemagne, des résidents d'une maison de retraite ont reçu leur piqûre samedi soir. Comme pour la France, un seul vaccin pour l'instant est utilisé, celui de l'alliance entre le géant américain Pfizer et la petite société allemande BioNTech. Vaccin qui doit se conserver au froid, Ludovic Piétenu.
Une rupture de la chaîne du froid n'a pas permis de commencer la vaccination dans 7 cantons de Bavière. L'information a fait l'ouverture des journaux. Seul impair pour cette première livraison de 150 000 doses, suivie de 520 000 autres aujourd'hui. C'est tout simplement trop peu, a jugé le dirigeant bavarois, car dans les faits, d'ici fin mars, le nombre de doses attendues ne couvre pas les besoins des 8,5 millions d'Allemands prioritaires. C'est une première étape, mais elle est importante, tempère Peter Tschentscher, le maire de Hambourg. jours, c'est normal qu'au début cela se fasse lentement. À Berlin, par exemple, n'est ouvert depuis hier qu'un seul centre sur les 6. C'est ici, à l'Arena, une salle de concert du quartier de Treptow, qu'observe ce couple de retraités. On est venu jeter un œil parce qu'on sait qu'on va devoir y venir, explique Renate, 82 ans, qui dit ne pas avoir peur du coronavirus parce qu'on est déjà bien trop vieux, dit-elle. Mais il faudra bien se faire vacciner, surtout en espérant que ça aide les autres. Les 80 cabines de ce centre ne fonctionnent que sur invitation adressée au personnel médical et aux plus de 80 ans qui peuvent se déplacer. Pour les autres, des équipes mobiles viennent à leur rencontre dans les maisons de retraite. Dans la capitale, par exemple, circulent 60 voiturettes capables chacune de vacciner 50 personnes par jour.
La correspondance à Berlin de Ludovic Piétenu. Le début de la vaccination ne signifie pas que la pandémie touche à sa fin. Face à la multiplication des nouveaux cas, plusieurs pays annoncent des mesures de restriction. Israël a entamé hier son troisième confinement. L'Italie l'a fait avant Noël. L'Autriche n'est pas épargnée non plus. On fait le point en Europe avec Jérémy Audouard.
Depuis ce week-end, l'Irlande du Nord, l'Écosse et l'Autriche appliquent de nouvelles restrictions. Les autorités ne parlent jamais explicitement de confinement, mais ça y ressemble fortement. En Autriche, on parle plutôt d'un couvre-feu qui s'applique durant la journée. Nuance, il sera en vigueur jusqu'au 24 janvier et les restrictions seront levées un peu avant pour les travailleurs qui acceptent de se faire tester. Ces mesures drastiques interviennent alors que la veille, les Autrichiens pouvaient encore se rendre librement dans les stations de ski qui étaient restées ouvertes à l'occasion de Noël. Nouvelle mesure également en Irlande du Nord et en Écosse. Là-bas, les commerces considérés comme non essentiels ont été fermés, les contacts sociaux limités. En cette fin d'année, les couvre-feux et les confinements partiels constituent donc la norme un peu partout sur le continent, hormis en Europe du Nord. À ce jour, 25 millions d'Européens ont été infectés par la Covid-19.
De nouvelles mesures de restriction vont-elles être prises en France? Certains redoutent un troisième confinement ou des confinements locaux. Nous devrions en savoir plus dans les prochains jours. Un conseil de défense sanitaire devrait avoir lieu demain autour du président de la République, Emmanuel Macron, en visioconférence. Donald Trump avait menacé d'opposer son veto au plan de relance de l'économie américaine. Finalement, hier, le président sortant des États-Unis a ratifié ce plan de 900 milliards de dollars. Il prévoit des aides aux ménages et aux petites entreprises. Le locataire de la Maison-Blanche a également signé la proposition de loi de financement de l'État fédéral, ce qui évite la fermeture des services publics qui auraient pu avoir lieu demain. Le dirigeant était sous pression, critiqué de toutes parts et encouragé à signer pour éviter un désastre économique et social. Reportage aux États-Unis à 7h30. Des groupes armés menaçaient d'empêcher le vote et de marcher sur Bangui. Les élections présidentielles et législatives ont eu lieu hier en Centrafrique dans un contexte sécuritaire tendu et après plusieurs jours de combats dans certaines localités du pays. Une élection à haut risque qui s'est finalement un peu mieux déroulée que prévu, Charlotte Cosset.
Il n'y a pas eu d'incident sécuritaire important dans la capitale. Les bureaux de vote ont pour certains eu du retard à l'ouverture, en cause des problèmes de logistique notamment. Quelques dysfonctionnements ont aussi été signalés, mais les électeurs étaient globalement au rendez-vous à Bangui, décidés à utiliser leur droit de vote pour lutter contre les pressions des groupes armés. Un dispositif sécuritaire important a été déployé à Bangui, dans la ville et dans les bureaux de vote. Casques bleus et forces de sécurité nationale étaient très présentes. Si à Bangui la situation a été calme, ce n'est pas le cas dans certaines villes de province, notamment dans les villes de Boar ou de Bambari. Dans certaines localités, les groupes armés ont perturbé le vote en empêchant le déploiement du matériel, en détruisant ou volant les urnes ou en faisant peur aux électeurs. Hier soir, les chiffres de la participation n'étaient pas encore connus.
Charlotte Cosset à Bangui. Aujourd'hui s'ouvre à Moscou le procès pénal du banquier français Philippe Delpal avec plusieurs autres collègues du fonds d'investissement Baring Vostok. Ils doivent répondre d'accusations de détournement de fonds dans une affaire que les accusés estiment depuis le début montée de toutes pièces. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Après 2 ans d'une enquête qui lui a valu d'être incarcéré de longs mois dans une prison russe avant de bénéficier d'une stricte assignation à résidence, le banquier français Philippe Delpal compte sur ce procès pour faire triompher la vérité. Avec ses co-accusés, le directeur financier du fonds d'investissement Baring Vostok entend démontrer qu'il a été accusé et incarcéré à tort dans le cadre d'un différend financier avec un actionnaire. Pour renflouer sa banque, Vostochny Express, le fonds s'était associé à un banquier, Artyom Avetisian. Mais s'estimant lésé et à l'approche d'un arbitrage à Londres s'annonçant défavorable, ce banquier russe est soupçonné d'avoir voulu régler son litige au pénal en actionnant des contacts au sein des services de sécurité russes et du système judiciaire. En Russie, cette pratique est souvent utilisée dans le monde des affaires pour se débarrasser d'un actionnaire. Et si cette affaire a fait grand bruit au sein de la communauté d'affaires, c'est que pour la première fois, des investisseurs occidentaux s'estiment victimes de cette pratique. Plusieurs personnalités libérales, dont un ancien ministre des Finances, avaient pris publiquement la défense de Bering Vostok, sans succès. Paris avait également qualifié d'indignes les poursuites retenues contre Philippe Delpal, sans obtenir davantage de résultats. À charge maintenant pour Philippe Delpal et le directeur de Bering Vostok, l'américain Michael Calvi, de démontrer preuves à l'appui qu'ils ne sont pas coupables des faits qui leur sont reprochés. Telle est du moins la conviction de Philippe Delpal.
Des milliers de foyers étaient privés d'électricité hier soir à cause de la tempête Bella en Alsace, en Franche-Comté et en Auvergne. 9 départements sont aujourd'hui placés en vigilance orange par Météo France pour des chutes de neige, des risques de verglas, notamment dans l'Aveyron, tandis qu'un phénomène de vague submersion affectera les littoraux de la façade atlantique. Le temps est donc très perturbé. Vous n'aurez pas plus de 5 degrés à Lille et Strasbourg, 6 à Paris, 8 à Brest, 9 à Bordeaux et 11 degrés cet après-midi. Midi à Marseille. 6h40, vous êtes bien sur France Culture, le journal des idées avec vous, Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Margot Delpierre.
Au bout de plus de 4 années de difficiles négociations, les Britanniques sont enfin parvenus à un accord sur leurs relations économiques avec l'Union européenne.
À rebours de la classique négociation d'un accord commercial entre États, il s'agissait de dénouer les innombrables liens tissés au fil de 47 ans d'un mariage de raison où l'amour n'a jamais éclos, souligne l'édito du Monde. Mais le soulagement que procure la fin de ce divorce marathon ne doit pas faire oublier l'essentiel. Le Brexit est une erreur historique, résultat du pari hasardeux de l'ancien ministre conservateur David Cameron et des mensonges de démagogues comme Boris Johnson qui a fait croire aux Britanniques qu'ils auraient le beurre, le libre accès au marché européen, et l'argent du beurre, le retour à la pleine souveraineté. Une erreur donc et un projet à contre-temps de l'histoire dont les Européens, mais surtout les Britanniques, n'ont pas fini de payer le prix. Déjà les milliers de camions bloqués de part et d'autre de la Manche après la décision européenne d'interrompre le trafic suite au signalement d'un nouveau variant de coronavirus au Royaume-Uni donnent une idée de la catastrophe qu'aurait constitué un no deal. Dans cette édition du quotidien Le Monde, Eric Albert, correspondant à Londres, fait écho aux critiques des financiers de la City qui estiment que la politique a primé sur le pragmatisme. Je cite « La pêche, qui représente moins de 0,1% du PIB britannique et 12 000 emplois, a été un point de négociation crucial entre l'UE et le Royaume-Uni. La finance, 7% du PIB et 1,1 million de postes, a été ignorée. C'est que, selon Mark Bolit, à la tête de la corporation au moment du vote pour le Brexit, la mise à l'écart de la City a un impact faible sur beaucoup de gens, alors que la pêche a un impact fort sur très peu de gens, comme symbole du souverainisme, ce qui n'empêche pas le rédacteur en chef du Daily Telegraph, journal conservateur et eurosceptique, de clamer haut et fort que c'est l'Europe qui vient de subir une lourde perte, et d'ajouter que De Gaulle avait raison en opposant son veto à l'adhésion du Royaume-Uni dans les années 1960, car les Britanniques ne pouvaient s'intégrer au modèle d'une Union européenne supranationale, je cite, partisans du libre-échange atlantiste déjà mondialisé, nous étions une île à part, nourrissant une toute autre conception de l'avenir de l'Europe. Désormais, cette conception n'a donc plus voix au chapitre. Reste que l'Europe doit continuer à chercher sa voie entre le compromis culturel et la culture politique du compromis, selon la formule de Marc Abeles et Irène Bellier. La dernière livraison de la revue Ethnologie française porte sur la fabrication de la citoyenneté européenne, car c'est bien là, au-delà des questions d'identité nationale, que peut se forger une conscience européenne sur la base des valeurs de l'état de droit, de la démocratie, de la justice sociale et de la liberté. L'anthropologue Monica Heinz relève que jusqu'à présent, les enquêtes ethnographiques sur le sujet ont essentiellement porté sur les institutions européennes et peu sur la vie quotidienne des citoyens eux-mêmes. ou alors à la marge, notamment auprès de ceux qui y voient l'opportunité de déplacement vers des conditions de vie et de travail plus favorables. Les ouvriers du bâtiment roumain, les saisonniers polonais, les gardes-malades ukrainiens ou les infirmières lituaniennes, leur présence en Europe de l'Ouest devient le support d'échanges qui contribuent à tisser la société européenne de demain. Erasmus aura également contribué à former une conscience européenne parmi les jeunes générations d'étudiants ou d'apprentis. Le dossier de la revue évoque d'autres cas d'adhésion personnelle à la citoyenneté européenne, comme celle qui est encouragée dans certains pays à travers des cours d'intégration à la citoyenneté pour les migrants non européens étudiés par Emma Fiedler. Mais d'une manière générale, l'appartenance européenne est vécue en basse intensité. Peut-être faut-il aussi se tourner vers la philosophie dont notre continent est l'inventeur pour donner corps à cette citoyenneté transversale. Jean-Marc Ferry se demande comment peut-on être européen en publiant sous ce titre chez Calman Levy des éléments pour une philosophie de l'Europe. Le spécialiste et traducteur de Habermas estime que l'intégration européenne ne doit pas être une simple affaire d'ingénierie, grand marché, monnaie unique. Je cite, à l'intégration systémique doit faire pendant une intégration civique, proprement politique. h 45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous Antoine Dulster et bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour, et je suis désolé Antoine, mais oublié de noter votre sujet.
Alors cher Jacques, nous allons parler aujourd'hui d'une cyberpuissance, la Russie, une cyberpuissance.
Voilà, ça me revient.
Voilà Jacques, merci beaucoup Jacques Meunier pour la première émission d'une semaine entièrement consacrée au grand dossier diplomatique à surveiller en cette année 2021. Nous nous penchons donc sur la puissance russe dans le domaine de l'espionnage informatique en ayant à l'esprit l'actualité de ces dernières semaines. Une cyberattaque d'une ampleur sans précédent a été révélée le 13 décembre dernier. Les faits se seraient déroulés à partir du mois de mars 2020. Un très grand nombre de sites internet d'administration et de sécurité ont été touchés aux États-Unis et dans de nombreux pays, y compris dans le domaine très sensible du nucléaire. La Russie pointée du doigt dément formellement toute implication et de fait il est toujours très compliqué d'identifier précisément l'origine d'une attaque informatique, même d'envergure comme c'est le cas. Mais l'occasion nous est donnée en tout cas de nous pencher sur le savoir-faire russe en matière de cyberespionnage, car Moscou a investi massivement ce cyberespace comme terrain d'affrontement stratégique depuis des années. Bonjour, ici Brett.
Bonjour Antoine Dulster.
Alors vous êtes maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions de sécurité. Vous co-animez le blog Eurasia Prospective avec Florent Parmentier. Et je signale un ouvrage que vous avez publié cette année, 10 attentats qui ont changé le monde, comprendre le terrorisme au 21e siècle. C'était chez Armand Collin. Alors Cyril Brett, commençons si vous le voulez bien par l'attribution de cette attaque à la Russie par le gouvernement américain. Le secrétaire d'État Mike Pompeo et le toujours procureur général des États-Unis William Barr désignent clairement Moscou, Joe Biden également, lui d'ailleurs en se démarquant de la passivité de Donald Trump qui lui évoquait dans un tweet la Chine. Est-ce qu'ils ont des raisons sérieuses d'accuser Moscou, ces responsables américains?
Ils ont sans doute des raisons techniques précises. Depuis que cette attaque massive a été découverte il y a quelques semaines, les éléments ont été rassemblés, les éléments techniques ont été rassemblés pour remonter la chaîne et attribuer cette attaque. Ils ont aussi évidemment des éléments politiques et des éléments diplomatiques ainsi que géostratégique pour l'attribuer à la Russie. La Russie a les capacités, la Russie a également les motivations politiques et la Russie dispose également d'une fenêtre d'opportunité dans cette période de transition assez longue qui conduira au 20 janvier à la prise de fonction de Joe Biden. Mais il faut noter qu'en matière de cyberguerre, de cyberattaque, l'attribution certaine n'est pas affaire technique, elle est affaire diplomatique, et il faut également noter qu'en matière de cyberguerre, ce qu'on déclare n'est pas forcément forcément ce qu'on constate. En l'occurrence, c'est aussi l'administration Biden qui est en train de se constituer qui a tout intérêt à pointer du doigt quels sont les futurs dangers. La Chine au premier chef et la Russie, évidemment. On sait que les démocrates sont particulièrement durs, sur une ligne particulièrement dure à l'égard du régime de Vladimir Poutine.
Alors, on parle de cyberattaque, de cyberguerre, Cyril Brett. De quoi s'agit-il cette fois-ci? Je crois qu'il s'agissait de collecter des informations sensibles pour les exploiter ensuite. On a mentionné le logiciel Orion, l'éditeur de logiciel SolarWinds. C'était pas une attaque par déni de service, comme on a pu voir il y a quelques années en Estonie. Comment résumer en quelques mots, peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas tous très fins connaisseurs de ces questions, comment résumer cette attaque informatique?
Il faut imaginer tout simplement une scène de cambriolage qui n'est pas physique, qui est numérique. Le cambrioleur s'est infiltré dans les systèmes d'information de différents ministères américains. Il a utilisé pour cela un logiciel de gestion des systèmes d'information hein, qui vous indique le trafic, qui vous indique l'état du réseau, qui vous indique l'état de communication entre les différents utilisateurs. Et ce logiciel s'appelle Orion. Il a été produit par une société de production de logiciels qui est basée au Texas, à Austin, qui s'appelle SolarWinds. Et au moment de l'actualisation, au moment de la mise à jour, en fait, de ce logiciel, Orion, eh bien, des pirates ont introduit une porte arrière qui permet d'extraire des données des différents systèmes d'information, très concrètement, de lire les mails des personnes qui font partie de ce système d'information, de lire les documents qui transitent par les mails et qui permet également de collecter des informations sur les logiciels qui sont utilisés par ces utilisateurs. Ce qui est neuf, ce n'est pas cette technique hein, qui est classique d'espionnage par les systèmes d'information. Ce qui est neuf, c'est la masse. 18 000 utilisateurs de Orion produits donc par cette société américaine SolarWinds et surtout la durée. Depuis mars, il est très difficile pour le moment, aussi bien pour les agences publiques de cybersécurité américaines et européennes que pour les agences privées, hein, c'est une société privée qui a levé le drapeau rouge. Il est très difficile de savoir et l'étendue de cette pénétration, de ce point de bricolage, et également de savoir quelles sont les informations qui ont été dérobées et qui sont en cours d'exploitation chez le pirate.
On prendra peut-être la mesure de cette importance, de l'importance de cette attaque ces prochaines semaines et ces prochains mois, justement. Alors, si la Russie est accusée, Cyril Brett, c'est qu'elle n'en est pas à son coup d'essai. Je le disais tout à l'heure en introduction, Moscou a été accusé déjà en juillet d'être à l'origine d'une série d'attaques sur les recherches pour les vaccins Covid-19. La campagne démocrate, on s'en souvient, avait été visée en 2016. Et puis on pourrait remonter plus loin dans le temps avec le pendant cyber de la guerre qui avait lieu en Ukraine en 2014, la Géorgie en 2008, l'Estonie, je le mentionnais également, en 2007. Il y a aussi un certain nombre d'organisations, l'OSCE, l'OTAN, l'Union européenne, qui ont été attaquées par des services liés à la Russie. On peut se demander si c'est cette cyberguerre n'est pas un champ qui a été investi très massivement par les Russes ces dernières années. Quelle place occupe cette guerre à côté d'outils d'intervention plus conventionnels, comme ce qu'on a pu voir en Ukraine, par exemple, en 2014?
Oui, les opérations de cyberguerre, de cyberdéfense, de cyberattaque ne se mènent pas de façon isolée. La Russie et les autres puissances du cyberespace les articulent avec des campagnes de presse, des campagnes de désinformation, des opérations clandestines, cette fois-ci avec l'outil militaire. Et vous avez raison, la Russie, depuis plus de deux décennies, s'est lancée dans une construction de ses infrastructures, des logiciels, des personnels et également de l'exploitation de ces cyberattaques, ce qui fait qu'elle est aujourd'hui une des grandes cyberpuissances complètes au niveau des infrastructures, au niveau des logiciels, au niveau des personnels, des ressources humaines, au niveau également de l'articulation avec les autres tactiques. Vous avez mentionné toutes ces attaques qui sont des attaques bien connu maintenant du public. Il faut aussi mentionner que dans le bras de fer qui a opposé la Russie à l'Ukraine avant et après l'annexion illégale de la Crimée, la Russie a utilisé l'arme cyber pour paralyser le réseau électrique ukrainien. C'est donc véritablement une puissance établie dans le cyberespace qui articule ses actions avec les autres dimensions de la puissance économique et militaire.
Alors, Cyril Brett, le journal Le Monde, en 2017, citait le ministre de la Défense, hein, Sergueï Choïgou, qui disait « La propagande doit être intelligente, compétente et efficace. Désormais, nous avons, disait-il, des troupes d'information beaucoup plus efficaces et plus fortes que l'ancienne section de contre-propagande. » Ça donne un peu, ces propos, la mesure de l'importance de cette cyberguerre dans le logiciel de projection vers l'extérieur de Moscou aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Le régime russe se veut conservateur sur le plan politique, mais sur le plan technologique et sur le plan stratégique, il a évolué énormément. Vous avez mentionné la guerre de Géorgie en 2008 qui a pointé tous les archaïsmes de l'appareil militaire et de la pensée stratégique russe. Et depuis plus d'une décennie, à travers la modernisation des forces armées classiques, à travers la modernisation également de cette puissance de projection médiatique, par l'intermédiaire de Russia Today, RT et de Sputnik, la Russie a investi d'autres domaines de la puissance. On constate d'ailleurs qu'elle n'est pas seule à prendre conscience de cette dimension-là, puisque la Chine, à marche forcée avec des ressources bien supérieures, a elle aussi tenté d'articuler la puissance cyber, la puissance médiatique, la puissance militaire et la puissance de déstabilisation politique.
Alors Cyril Brett, face à ce que l'OTAN nomme une guerre hybride, hein, donc cette cyberguerre, est-ce que les Européens aujourd'hui et les Occidentaux de façon plus générale vous semblent préparés, adaptés, prêts à faire face à cette menace? On a eu des déclarations de plusieurs commissaires européens ces derniers jours après la révélation de l'attaque, son précédent révélé au mois de décembre. Le temps de l'innocence est terminé. Nous savons que nous sommes une cible, a déclaré le vice-président de la Commission, Margaritis Schinas. Thierry Breton aussi a déclaré il s'agit de redessiner l'espace numérique pour le 21e siècle. Il faisait allusion à un bouclier numérique pour faire face à cette cybermenace russe. Est-ce que l'Europe est prête à faire face à cette menace aujourd'hui?
Pas encore. Et les différents représentants de la Commission européenne, y compris également Josep Borrell, hein, qui prépare la nouvelle doctrine stratégique de l'Europe, pointe les insuffisances des Européens. Encore une fois, les Européens partent avec un train de retard. Malheureusement, ça tient à la division de leurs forces. Hein, ils n'ont pas la masse critique en matière de cyberdéfense et les efforts de cyberdéfense se font sur des bases nationales. C'est le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, et la France, ont développé des capacités de cyberdéfense importantes. D'autres pays, eux, ont des ressources dispersées. Et ils partent également en retard, simplement à cause de l'absence de conscience stratégique. L'Europe se pensant non pas comme un acteur du rapport de force international, mais comme un pacificateur et un acteur commercial. Donc les efforts sont encore à porter, et les Européens qui ont la capacité technologique, la capacité également d'infrastructure, n'ont pas encore décidé de se servir de ces leviers de puissance pour, comme la Russie, compenser leurs faiblesses dans d'autres domaines.
Et l'on comprend, Cyril Brett, ce dossier sera à suivre tout au long de cette année 2021. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Sciences Po et spécialiste des questions de sécurité en Europe. Merci à vous.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Telle Céline Dion, pommeau de douche en main, donnait de la voix dans sa salle de bain.
Sur France Culture, le documentaire se déploie en grand format. Perrine Kervran.
Reprendre les tubes façon clo-clo des petits chanteurs d'Asnières, rêver d'envoler lyrique ou s'imaginer dans les steppes apprendre le chant diphonique. Mais en fait, mais si on chantait, c'est la bonne résolution de LSD cette année.
LSD, la série documentaire, du lundi au jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57, c'est l'heure de vous retrouver Hervé Gardette, bonjour.
Bonjour Antoine Ulster.
Alors dans votre billet d'humeur ce matin, vous revenez sur votre repas du 24 décembre.
J'avais pourtant tout prévu cette année pour le repas du réveillon de Noël. J'allais en mettre plein la vue à ma famille au moment de déguster la verrine de Saint-Jacques. Un petit cours d'érudition qui allait en scotcher plus d'un et plus d'une. Vous saviez qu'on peut connaître l'âge d'une Saint-Jacques rien qu'en regardant sa coquille, que chaque jour une strie se dépose à la surface de ses valves, qu'elle enregistre dans son squelette les variations de température de l'eau de mer, que pour peu qu'on tende un peu l'oreille, on peut l'entendre fredonner, un chant qui rappelle celui de la baleine à bosse. Aucun doute, l'assemblée en resterait bouche bée. Et histoire de bien enfoncer le clou, j'en rajouterai une couche sur la symbolique qui accompagne cet animal, mélange de purification spirituelle et de résurrection, ce qui explique pourquoi les cuves des fonts baptismaux sont souvent en forme de coquille. Bref, j'avais relu le livre de l'écologue Laurent Chauveau, La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan, et j'avais réécouté la chronique que lui consacrait le biologiste Bruno David en septembre dernier sur cette antenne. Mais c'était compté sans Tommy. Tommy est pêcheur de coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Malo. Mercredi dernier, il apparaît dans un reportage de la mi-journée sur France 2, en plein travail, torse nu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que si les propriétaires de chiens ressemblent souvent à leur animal de compagnie, Tommy, lui, n'a rien d'un mollusque. Zéro mimétisme avec l'objet de ses convoitises. Son physique avantageux, un assortiment d'abdominaux et de pectoraux n'est pas passé inaperçu. Déchaînement sur les réseaux sociaux, reportage sur les sites d'info. Pour mon malheur, les convives autour de la table avaient vu Tommy dans ses œuvres. Et je peux vous dire que mes connaissances sur la coquille Saint-Jacques n'ont intéressé personne. Du coup, c'est décidé. En 2021, j'arrête de lire des livres, je me mets à la muscu.